Les coqs chantent les jours pareils, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Distingués invités, mesdames et messieurs, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouverte la 7e édition du Forum international sur le Green Business. Je vous remercie.
Cette semaine, nous allons à Pointe-Noire, en République du Congo, où s'est tenue la 7e édition du Forum international sur l'économie verte les 17, 18 et 19 mai derniers.
Dû aux actions négatives de l'homme sur son environnement, le désert avance, les sols s'appauvrissent, les forêts diminuent, le réchauffement climatique.
Avant toute chose, il importe de s'entendre sur les mots, c'est-à-dire définir ce qu'on appelle économie verte. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'économie verte est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources.
L'homme sans moi, tu ne pourrais vivre, la vie je te la donne, pourquoi veux-tu ma mort?
L'économie verte, c'est donc une économie qui, à long terme, utilise moins et mieux la ressource énergétique et les matières premières non renouvelables, qui émet beaucoup moins de gaz à effet de serre, qui pratique la production et la consommation responsable, pense les productions en termes du cycle de vie, qui protège et rétablit les services écosystémiques rendus par l'eau, les sols et la biodiversité, et enfin qui évalue les effets des décisions sur les générations futures.
Changeons de comportement. Le développement durable est un mode de développement qui permet à tout être vivant de satisfaire ses besoins tout en provenant son environnement futur.
À présent, l'événement qui nous occupe, c'est-à-dire le Forum international sur l'économie verte. Ce forum international est un événement pionnier sur le continent, organisé par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire, le gouvernement congolais, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et cette année 2016 marque la 7e édition. Rosalie Matondo est la toute nouvelle ministre de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement. D'abord, je veux vous féliciter pour votre nomination. Je n'étais pas au courant, moi.
Merci bien. Merci, monsieur Saoubato.
Alors, nous sommes au 7e forum. Il y a toute une évolution, là.
Mais l'évolution, c'est le fait que nous voulons que ce forum ait un impact, que les gens puissent se rendre compte de cet impact-là au niveau des créations des entreprises, au niveau des créations d'emplois. Et vous savez bien aussi que c'est grâce à ce forum que nous avons mis en place le Fonds vert pour l'Afrique centrale. Et donc, le Fonds vert aura pour objectif de financer des projets de développement.
Si j'ai bien compris, maintenant, on est dans une phase pratique.
Il faut être dans une phase pratique. C'est pourquoi nous avons dit que nous ne devons pas nous arrêter à des théories, mais il faut que nous soyons dans la phase pratique. Nous avons commencé avec le Programme national d'afforestation et de reboisement qui veut la création des entreprises forestières au niveau des populations villageoises. Nous allons continuer dans ce sens-là, mais aussi faire une agriculture verte, telle que nous l'avons dit, en tenant en compte les principes du développement durable.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Tabouna Honoré est expert en valorisation de la biodiversité et économie de l'environnement à la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cette communauté économique, créée en octobre 1983, regroupe actuellement 10 États membres, à savoir l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Elle a une superficie de 6 640 000 km² pour une population estimée à 130 millions d'habitants. C'est le principal organisme d'intégration et l'économie verte ne pouvait échapper à son périmètre de compétence.
Le Forum international Green Business est aujourd'hui encadré par une décision des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Donc ils reconnaissent le Forum international comme un outil de promotion de l'environnement et de l'économie verte ainsi que de la lutte contre les changements climatiques. Parce que l'une des missions de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est l'intégration régionale. Donc nous cherchons des thématiques, des sujets, des programmes qui peuvent donc rassembler tous les États membres. Donc aujourd'hui, ce forum est reconnu par toute la sous-région et comme je dis à ce titre, il devient un outil d'intégration sous-régionale en matière d'économie verte. Voilà un peu le système au niveau sous-régional. Maintenant, au niveau des États, il y a le système de l'économie verte nationale. La CEAC, donc, dans la deuxième phase, va donc aider les États à mettre en place ce système-là, réaliser les études de faisabilité pour voir que va faire ce système, que fera chacun ou bien chaque outil, quels sont les services à rendre aux États, aux populations et aux entreprises pour que les gens sachent pourquoi nous avons ce système.
Alors, vous avez dit que l'Afrique a loupé les précédentes révolutions industrielles. Nous ne devons pas louper cette révolution-là.
Tout à fait, parce que quand on parle, par exemple, de la révolution nucléaire, nous n'avons pas la technologie. Quand on parle de la révolution qui s'est passée, disons, au 19e siècle, avec la découverte du charbon, nous n'y étions pas. Mais aujourd'hui, avec l'économie verte, elle est tellement diversifiée, elle mobilise aussi bien les savoir-faire traditionnels que les savoir-faire modernes, que nous y avons notre part. Et une sous-région comme l'Afrique centrale, dès lors qu'il a une identité qui est basée sur les écosystèmes, et il y en a trois à peu près, si on peut dire. Vous avez le Sahara, vous avez la zone sahélienne, vous avez la zone forestière. Et à côté de ça, vous avez tous les savoir-faire traditionnels qui utilisent la biodiversité, par exemple, qu'elle soit saharienne, qu'elle soit sahélienne. Donc il y a là une place pour ne pas rater justement cette révolution verte. Donc comme les États ici, les populations ici, les entreprises ici maîtrisent les savoir-faire traditionnels, ils peuvent donc bien se positionner et marquer leur visibilité sur cette question-là. Quand vous prenez par exemple des déchets, le traitement des déchets, ce n'est pas nouveau ici. On a toujours traité les déchets. Donc il suffit aujourd'hui maintenant de donner plus de valeur économique au savoir-faire traditionnel pour montrer que nous y sommes et nous pouvons aller plus loin.
Monsieur Tabouné, vous a parlé du forum des solutions. C'est quoi ce forum des solutions?
Jusque-là, on n'a fait que de la conception. On a fait beaucoup de discours. Et les gens sont impatients parce qu'ils sont toujours habitués au discours. Maintenant, il faut passer à la phase pratique. Il faut des solutions. Nous voulons voir, quand on parle, par exemple, de l'économie de reboisement, qu'on voit des entreprises qui sont dans la filière de reboisement ou bien dans le secteur de l'économie de reboisement. Celles qui sont dans la domestication, celles qui sont dans le développement des pépinières, celles qui sont dans le développement des produits, dans la transformation, dans la mise en marché. Voilà les solutions. Parce qu'en face, nous n'avons que des problèmes. Alors, si on a des problèmes, donc il faut proposer des solutions. Sinon, on va faire du surplace. Pointe Noire, donc, doit réfléchir sur cette transition. Comment aller vers les solutions? Donc, il y aura des propositions. Nous allons y travailler pour maintenant proposer un nouveau concept à toute la sous-région sur, disons, les solutions en matière d'économie verte. Pour que les gens voient que c'est réel, que ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas du visuel, mais c'est du concret.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Didier Mavouinzela est président de la Chambre de commerce, d'industrie, de l'agriculture et des métiers de Pointe-Noire. Rappelons que depuis les débuts, la Chambre consulaire de Pointe-Noire est la cheville ouvrière du Forum international sur l'économie verte. Et ça fait 10 ans qu'on parle d'économie verte à Pointe-Noire.
Ça fait 10 ans parce que on a mis 2 ans avant de lancer le premier forum. Donc on était déjà sensibilisés à l'existence de l'économie verte. Vous savez que avant qu'on arrive à l'économie verte, on a d'abord parlé protection de l'environnement, puis on est passé au développement durable et ensuite économie verte. Et donc, ayant comme mission de promouvoir l'économie, nous nous sommes dit qu'il fallait absolument, en fonction de la veille informationnelle que nous mettons en place, informer, sensibiliser les entreprises sur l'économie verte.
Alors, vous avez dit ce matin que l'économie verte, c'est à la fois un défi et un pari.
C'est un défi parce que aujourd'hui, si on ne relève pas ce défi, on va voir les conséquences. L'Afrique en pâtira des conséquences du mal développement de la planète aujourd'hui. Vous savez que lorsqu'il y a les conséquences des effets sur l'environnement, c'est d'abord les populations les plus modestes qui en souffrent. Et donc, l'Afrique en souffrira, c'est pour ça que c'est un défi pour les Africains. Une opportunité aussi parce que ce défi Il faut le transformer en opportunité pour que finalement ça permette d'améliorer les conditions de vie de population, que ça permette de développer des entreprises. Et c'est pour ça que l'économie verte est en même temps un défi et une opportunité.
Mais j'ai lu quelque part que ces effets du climat, là, ça a plus d'impact sur les pays pauvres, que les pays riches. Est-ce que c'est vrai?
Ben oui, vous savez qu'ici, nous n'avons pas, nous, les moyens de nous prémunir déjà contre les effets du dérèglement climatique. Déjà parce que nos villes, nos territoires ne sont pas construits en intégrant cette notion de protection des risques. Et c'est pour ça que nous sommes les plus fragiles.
Cette année, le thème du forum, c'est innovation, technologie et économie verte. Moi, je traduis ça par « il faut des mesures concrètes maintenant ».
Oui, il faut des mesures concrètes maintenant. Et surtout, il faut voir comment on va utiliser l'innovation et la technologie pour aller plus vite dans l'économie verte. Parce qu'il faut qu'on passe du stade artisanal de l'économie verte à un stade industriel. C'est pour ça qu'il faut inclure la technologie pour aller rapidement vers l'économie verte.
Comment fait-on ça concrètement?
Concrètement, aujourd'hui, si je prends le cas d'un agriculteur, si vous lui mettez de la technologie, il va avoir de meilleurs rendements pour pouvoir développer ses activités. C'est comme les villes. Pour atténuer les conséquences des effets du dérèglement climatique, il faut associer la technologie à la gestion urbaine des villes. Et la technologie, par exemple, permettra d'avoir une meilleure connaissance des défis que doit relever une municipalité. C'est pour ça que la technologie, aujourd'hui, permet d'aller plus rapidement vers une économie verte en Afrique centrale.
Bon, je vais prendre un cas concret. Par exemple, je suis un artisan et je fabrique des paniers, des meubles en osier. Plutôt que de me laisser continuer à aller chercher l'osier dans la nature, si je produis moi-même l'osier, je maîtrise la production. Concrètement, est-ce que c'est ça?
Oui, vous maîtrisez la production, mais il vous faut vendre. Comment faire connaître à quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres ou même à des centaines de kilomètres que vous avez fabriqué des fauteuils? Or, aujourd'hui, nous avons les technologies de l'information et de la communication qui peuvent permettre d'informer tout le monde que vous avez fabriqué des meubles qui sont disponibles, que les gens peuvent acheter.
Donc l'idée, c'est de mettre tous ces gens-là ensemble pendant 3 jours pour qu'on discute, dégager des idées, parce qu'il y a des chercheurs, il y a des parlementaires, il y a la société civile, en fait, il y a tout le monde ici.
Oui, il y a tout le monde ici. Vous savez qu'on a des instituts de recherche agronomique en Afrique, mais il faut que ces chercheurs travaillent, discutent, échangent avec les agriculteurs. Or, il n'y a pas de cadre approprié pour pouvoir le faire.
C'est-à-dire que les recherches, ça reste dans les laboratoires.
Il faut effectivement mettre à la disposition des agriculteurs les recherches qu'ils font. Et ce forum est un moyen d'organiser une rencontre entre ces chercheurs et les agriculteurs. Et ça, c'est aussi valable dans d'autres métiers.
Je vous remercie.
C'est moi.
L'Afrique centrale compte de nombreuses aires protégées, dont 17 au Congo. Comment allier la conservation dans le cadre des aires protégées et les droits des populations autochtones? Telle est la grave question que pose le développement de l'économie verte. Blanche Yenge est directrice de la valorisation et du marketing à l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées, agence qui relève du ministère de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement.
C'est vrai que les populations locales, les communautés locales, depuis très longtemps, ils vivent de la forêt, ils vivent de la cueillette, de la chasse. Mais alors, on ne peut pas leur priver. Mais en fait, ce que nous combattons, c'est le braconnage. Il y a des espèces qui sont protégées, qui sont aujourd'hui exposées, qui doivent être préservées, telles que les éléphants, qui sont recherchés par les braconniers à cause de l'ivoire. Qu'est-ce qu'on va faire? Les populations locales devraient adhérer justement à la gestion durable de la faune et des aires protégées.
Donc en fait, une aire protégée, vous dites aux populations, vous, dans la valorisation, ce que vous avez, c'est une richesse, ne détruisez pas ça.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une richesse, mais nous les impliquons. En fait, nous sommes en train justement d'élaborer des mécanismes pour totalement impliquer les populations riveraines dans la gestion durable de ces aires protégées-là.
Alors, vous venez me dire de changer complètement ma vision de la nature. Est-ce que ça marche toujours? Est-ce que les populations vous écoutent toujours?
Je mange de la chasse, je me nourris de la chasse, c'est mon moyen de survie. Bon, quand on vient de me dire arrêtez d'aller chasser, ça ne fait pas toujours du bien s'il n'y a pas un autre moyen pour me permettre de survivre. C'est cela.
Et comment vous faites?
Nous sommes en train d'élaborer des mécanismes pour essayer d'impliquer les populations. Donc, il nous faut des financements pour justement que ces mécanismes puissent être mis en place et permettre à ces populations de profiter de la gestion durable de nos aires protégées.
Je vous remercie, madame. Je vous laisse parce que je sais que vous êtes occupée.
Merci beaucoup. Merci.
Parmi les activités qui sont mises en accusation dans la dégradation de l'environnement, l'agriculture avec le mode abattu brûlis. Comment innover dans ce domaine qui fait débat? Grégoire Bani est directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique du Congo.
Vous savez très bien que les agriculteurs sont des grands innovateurs. Vous savez, les agriculteurs, depuis les temps les plus anciens, ils ont vécu toujours de l'innovation parce que le monde change et les sociétés. Et finalement, les systèmes agricoles, quand on voit l'histoire, sont en constante évolution. Parce que quand vous regardez de près, les variétés changent, les façons de cultiver la terre changent, et etc., etc. Si bien que les grands innovateurs, malheureusement, ils ne documentent pas. La science moderne a l'avantage parce que les gens écrivent. Mais les paysans, ils n'écrivent pas. Ils ont des choses qui changent pour s'adapter à des situations sociales et agrotechniques. On a constaté ça dans la station de Loudima où nous sommes, qu'avec l'allongement de la saison sèche, et finalement, ils ont fait les efforts de semer à plusieurs moments, ils ont constaté finalement les semis qui étaient calés entre le 10 octobre et le 15 novembre. Finalement, maintenant, ils peuvent même planter le manioc jusqu'au mois d'avril.
Ça veut dire qu'avant, on ne pouvait pas?
Bien sûr, les agronomes leur ont dit que non, si vous plantez le manioc après le 15 novembre, il n'y a pas assez de pluie, etc., etc., etc. Et obligés par la sécheresse, ils ont fait l'effort parce que chaque fois quand ils plantaient, il n'y avait pas suffisamment d'humidité, le manioc crevait, etc., etc. Et finalement, ils ont fait l'effort de planter. Ils ont constaté quand ils ont planté jusqu'en avril, le manioc tenait. Et passait bien la saison sèche, il y a une certaine, peut-être pas toutes les variétés. Et par là également, donc, ils ont pu sélectionner des variétés qui s'adaptent à ces conditions. Et c'est ça les évolutions.
Alors, il est aujourd'hui question d'innovation, mais on ne peut pas innover sans la recherche scientifique.
Bien sûr. Et c'est pour ça que nous sommes contre le fait que la recherche agronomique moderne, qui est arrivée bien sûr au temps colonial, qui a fait des progrès, hein, mais elle a ignoré totalement les savoirs endogènes. La première des choses, c'est étudier les rendements dans les circonstances du paysan. Les rendements. Souvent, les systèmes paysans, c'est une intégration de beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous venez dans un champ paysan, ce n'est pas souvent une monoculture, c'est plutôt une association de cultures.
C'est pour ça qu'on voit du maïs, de l'arachide et du niébé dans le même champ.
Bien sûr, quand vous arrivez, il y a toute une rationalité à ça. Au niveau de la gestion de la fertilité des sols, quand vous avez cité le niébé apporte de l'azote. Quand vous avez parlé du maïs, le maïs a un système racinaire fasciculé. Donc, au niveau du sol, ils n'exploitent pas les mêmes horizons des éléments fertilisants.
Et aussi, on voit quelque part du riz avec de la pisciculture.
Bien sûr, tout ça, c'est lié à ce qu'ils font pour pouvoir mieux valoriser les ressources naturelles qui sont là. Et si vous ne tenez qu'au rendement d'une seule culture. Vous avez fait très souvent ma recherche agronomique moderne, c'est souvent la culture pure, mais on ignore tout ce que le paysan gagne quand il fait la polyculture, au niveau même de l'agro-système, parce que quand vous avez une association de cultures, les insectes ne se comportent pas de la même manière s'ils sont sur une culture pure.
Ah oui, d'accord. C'est pour ça que, par exemple, quand je vois un champ de maraîchage, et tout autour, on met des céréales.
Voilà. Vous allez voir que certaines personnes plantent des cultures maraîchères dans les exploitations européennes, c'est pur, c'est bien aligné, etc., etc. Et ici, très souvent, on associe à d'autres cultures. Et il y a une observation faite par les paysans, je crois que c'est au Bénin, ils ont vu que quand ils mettent la citronnelle, ils ont moins d'attaques de Plutella, Cilostella, la teigne qui attaque le chou. Vous voyez, c'est très important ça.
Je vous remercie, docteur.
C'est moi qui vous remercie.
Dans la préservation de l'environnement et la valorisation des ressources naturelles, le rôle des femmes est essentiel. Ce sont elles qui sont chargées du ravitaillement des familles en eau, ce sont elles qui vont chercher le bois du chauffe, ce sont elles qui vont cueillir, cultiver et gérer les denrées alimentaires. Indou Oumarou Ibrahim est coordonnatrice de l'association des femmes peules autochtones du Tchad.
Déjà, le statut d'une femme en Afrique, c'est marginal. On est toujours en arrière-plan. Et être une femme éleveuse venue d'une communauté nomade, encore, c'est une autre marginalisation. Et c'est ce qui fait que ça pèse cette discrimination. Mais tandis que les femmes, c'est elles qui posent toutes les solutions et c'est elles qui font tous les boulots.
C'est-à-dire que quand il y a une crise, l'homme se sauve, mais la femme reste.
Exactement. Dans la société, la manière de répondre à des crises sont vraiment différentes entre un homme et une femme. Et si on prend l'exemple de saison, quand la saison de pluie finit, et donc le bonheur communautaire est fini, la saison sèche commence, l'homme il répond en fuyant le foyer pour aller dans la ville. Il dit, bon, reste là avec les enfants. Moi, je vais aller en ville pour chercher un boulot et ramener quelque chose à la maison. Bon, tandis qu'il va rester durant toute la saison sèche. Et or, la femme, elle n'a pas le choix. Elle est obligée de rester avec les enfants là où il y a le cru et les grandes personnes qui sont âgées. Et elle s'occupe de leur nourriture, elle s'occupe de leur sécurité. Alors, elle assume le rôle de la femme et de l'homme en même temps.
Ça fait des années qu'on parle de lutter contre les dérèglements du climat. Vous n'êtes pas impatient de voir des résultats?
En fait, quand on parle de... Oui, on va chercher des résultats, le changement climatique. Pour nous, on voit beaucoup plus les multiplications des papiers, des rapports et des discours, des promesses politiques qui ne finissent jamais. Mais si on prend la balance, on met les populations qui sont victimes de ces impacts du changement climatique. On dit combien de projets qui changent leur vie, qui sont allés chez eux. On va en trouver très, très, très peu. Mais ils ne décident pas pour leurs solutions. Et ils les vivent tous les jours. Mais tandis que ceux qui décident pour les solutions sont très loin de la réalité et qui les mettent que dans des papiers. Or, le changement climatique est une crise qui est différente. Ça change de données d'un jour à un autre, d'une année à une autre, et donc les victimes restent toujours les mêmes.
Là, nous sommes à Pointe-Noire pour parler d'économie verte. Qu'est-ce que vous êtes venu dire?
Alors, c'est déjà très bon d'avoir une conférence pour parler de l'économie verte, de la transition vers l'énergie propre dans une terre africaine. Je crois que pour moi, c'est le moment de faire passer même l'information. Beaucoup de gens ne connaissent pas de quoi il s'agit en réalité, les négociations du changement climatique, et qu'est-ce qui se négocie, et c'est quoi les solutions qu'on prend sur place.
C'est une affaire d'experts.
Exactement, ça devient une affaire d'experts. Encore une fois de plus, les populations sont un peu à l'écart. Mais les gens qui font du business sont au cœur de la chose. Mais il faut les éduquer pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qu'il y a sur le terrain et qu'est-ce qui va changer, comment ils vont les changer. Bon, espérons que l'information passera quand même aux impactés parce qu'on n'est pas loin d'eux. Mais les solutions vont-ils les atteindre pour de vrai?
Je vous remercie, madame.
Je vous en prie.
Si l'agriculture est accusée de participer au dérèglement climatique à travers la dégradation du couvert végétal et la pollution de l'air, cette activité est à son tour impactée par les changements climatiques. Et c'est encore plus vrai dans les pays africains de la bande sahélienne. Aïssata Diouf est chargée de plaidoyer changement climatique à l'ONG Enda Tiers Monde à Dakar.
L'agriculture est l'un des secteurs les plus impactés par le changement climatique en Afrique, du fait de sa très petite résilience par rapport aux impacts du changement climatique. Donc nous assistons à des périodes de sécheresse très longues alternées par des périodes d'inondations, donc qui impactent à la fois sur les rendements agricoles des petits producteurs qui n'ont pas les moyens de se préserver face à ces enjeux climatiques-là. Et par ailleurs, également, on voit qu'en Afrique, l'information climatique n'arrive pas régulièrement aux agriculteurs pour qu'ils sachent quand cultiver, quoi cultiver et à quelle période.
Et c'est tout ça que vous êtes venu dire à Pointe-Noire?
C'est tout ça que je suis venu dire à Pointe-Noire. On parle d'économie verte. Comment on peut parler d'économie verte sans parler des femmes?
Actrices principales.
Elles sont actrices principales de cette économie verte-là. Elles sont porteuse de solutions innovantes et je pense qu'une économie verte qui intègre les femmes, ça va être une réussite pour le continent africain.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Nous étions à Pointe-Noire en République du Congo où s'est tenue la 7e édition du Forum international sur l'économie verte les 17, 18 et 19 mai derniers. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Pierre Chaffanjon, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr, rubrique émission. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante.